France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui à l'occasion d'un téléfilm qui lui était consacré en octobre 2006, une des plus grandes affaires judiciaires du XXe siècle, le procès de Marie Bénard.
Que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocent. Oui, je suis innocent.
Mille ans d'histoire. En 1959, Marie Bénard, que l'on vient d'entendre, affirmait qu'elle était innocente des 12 meurtres par empoisonnement dont on l'avait accusée 10 ans plus tôt. C'était en plein milieu d'une affaire qui, pendant 12 ans, a passionné la France entière jusqu'à l'acquittement de Marie Bénard en 1961. Cette année-là, celle qu'on avait d'abord surnommée la reine de l'arsenic ou la Brinvilliers du Poitou, était soudain redevenue la bonne dame de Loudun, la malheureuse victime d'une calomnie et des défaillances d'une police et d'une justice qui l'avaient traînée devant les tribunaux sans parvenir à prouver sa culpabilité. Mais les rumeurs ayant la vie dure, on s'est toujours demandé jusqu'à aujourd'hui si Marie Bénard était aussi innocente qu'elle l'avait affirmée et si elle n'a pas emporté jusque dans la tombe un secret qu'elle aurait gardé jusqu'à sa mort. France Inter, Patrice Bertin, le 14 février 1980.
Marie Bénard est morte hier soir chez elle, victime d'un cancer des os, à l'âge de 83 ans. Les anciens s'en souviennent comme si c'était hier. Marie Bénard a été la vedette de l'un des plus extraordinaires procès criminels du XXe siècle. Accusée d'avoir empoisonné, je prends mon souffle car la liste est longue, son premier mari, son second mari, sa grand-tante, son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur, son père, sa mère, deux vieilles cousines, une voisine et le pâtissier du coin, au total 12 personnes, Madame Arsenic a passé 5 ans en prison. Jugée puis rejugée, elle a finalement été acquittée par la cour d'appel de la Gironde en 1961. Marie Bénard, qui avait été acquittée grâce aux dépositions des experts de l'Académie des sciences, n'était pas une ingrate. La preuve, elle a légué son corps à la science.
Sophie Darblade, bonjour.
Bonjour.
C'est assez curieux ce dernier clin d'œil de Marie Bénard, confiant son corps à la science.
Oui, on dirait presque un hommage aux experts qui se sont penchés sur le cas Bénard pendant 12 années de procédure, une des plus longues d'ailleurs en matière criminelle.
Alors, ce procès, on en reparle, le cas, cette Marie Bénard, on en reparle bien sûr à l'occasion de l'excellent téléfilm que lui a consacré TF1. Et Muriel Robin d'ailleurs y joue une Marie Bénard très convaincante, c'est magnifique le rôle qu'elle joue. Et puis alors, vous lui avez vous-même consacré un livre à cette affaire, l'affaire Bénard, une des plus grandes affaires judiciaires du XXe siècle. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle avait de plus sensationnel que les autres, Sophie Darblade, cette affaire ?
Elle était hors norme déjà par les suppléments d'informations qui ont été requis tout au long de la procédure, des expertises à n'en plus finir, et aussi le personnage Marie Bénard était quelque part est devenu hors norme parce que la presse écrite notamment en a fait une inculpée d'emblée. Elle a été accusée immédiatement. Elle avait presque le physique de l'emploi, je dirais.
Oui, c'est très actuel de cette manière parce que c'est vrai que c'est une femme qui est accablée par l'opinion publique, par la presse au début. Hein. Tout le monde est convaincu qu'elle est coupable.
Tout le monde est convaincu, à Loudun notamment, puisque c'est de là que part la rumeur, et cette rumeur s'emballe, on ne peut plus l'arrêter, et tout le monde est persuadé qu'elle a empoisonné son mari.
Alors justement, c'est avec cet empoisonnement, pas le premier justement, hein, parce qu'on en trouvera d'autres, on inventera d'autres, mais alors c'est avec cet empoisonnement de son mari que l'affaire commence. Il est mort, son mari Léon Bénard, il est mort le 25 octobre 1947 d'une crise d'urémie, mais peut-être aussi d'autres choses. C'est ce que pensent en tout cas deux habitants de Loudun, où les faits se sont produits, Louise Pintou et une amie des Bénard, et un châtelain de la région, Auguste Massip.
Eh bien Louise, vous n'êtes pas avec cette pauvre Madame Bénard ?
Auguste, il faut que je vous parle, je ne peux plus garder ça pour moi. Marie, c'est une comédienne. Son Léon, elle l'a empoisonné. La veille de sa mort, Léon m'a retenu près de lui.
Louise, qu'est-ce qu'on m'a fait prendre ? Marie,
ferme la soupe. Marie a mis quelque chose dedans.
Non mais elle a pas pu faire ça, voyons, c'est impossible, Marie. Léon devait délirer, c'est la fièvre.
Il avait toute sa tête, ça, il avait toute sa tête. Qu'est-ce que c'est?
C'est mon dictionnaire médical. Je veux voir ce qu'ils disent à Jérémy. Officiellement, Léon est mort de ça.
Alors,
vous m'avez dit qu'il vomissait?
Oui.
Ils en parlent pas pour Jérémy. Ou alors empoisonnement.
Regardez ce qu'il met, arsenic. Arsenic. Vomissement, brûlure digestive.
Insuffisance hépatique et rénale qui peut faire penser à de l'urémie. Mais bon Dieu, vous avez raison. Elle l'a empoisonné à l'arsenic. Bon, il faut immédiatement prévenir la police.
Et c'est comme ça que la mort de Léon Bénard va devenir l'affaire Marie Bénard. Ça commence effectivement par une rumeur et colportée par deux personnages. Alors dans le téléfilm de TF1, on a changé les noms mais on a gardé les prénoms. Hein. C'est Louise Pintou et Auguste Massip qui ont joué un rôle essentiel. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'affaire Bénard.
C'est vrai que tout est parti de là et notamment de Louise Pintou qui va se confier au Massip, puisque ce sont même plusieurs frères. Et à partir de... Tout au moins, elle va se confier à eux. Lui, d'emblée, est un procédurier. Il est assez connu des tribunaux. Il écrit au juge, donc en relatant ce qui s'est passé. On interroge Louise Pintou, mais Louise Pintou se rétracte et estime que c'est sorti de l'imagination de.
Oui, elle se rétracte, Massip. Mais on pense que c'est parce qu'elle était la locataire des Bénard.
Alors, elle est la locataire des Bénard et elle est très liée avec eux depuis de nombreuses années et elle est aussi très présente auprès de Léon Bénard et au cours ensuite des différents procès. Autant Louise Pintou niera avoir eu une liaison avec Léon Bénard, autant Marie Bénard aurait dit qu'elle aurait fermé les yeux pour la paix du ménage.
Mmh. Autre liaison qui se cacherait derrière cette affaire, c'est une liaison entre Marie Bénard et son domestique allemand, je crois qu'il était un prisonnier allemand qui était resté en France après la guerre, et qui s'appelle Alfred Dietz,
qui les aide aux travaux des fermes. Hein. Il est là dans la ferme des Bénard. C'est vrai qu'elle avait une relation qui était plus de l'ordre d'une mère, puisque c'était un très jeune homme de 24 ans. Mais on imagine qu'elle a une liaison, parce qu'on voit soi-disant certains gestes. Enfin, vous savez, dans ces communes et à cette époque-là, on n'est pas très loin des règlements de compte non plus de l'après-guerre. C'est un ex-prisonnier allemand. Et la rumeur va bon train de ce côté-là aussi.
C'est une ville qui avait été habituée. Hein. C'est une ville où 300 ans plus tôt, il y avait déjà eu une rumeur avec un curé, Urbain Grandier, qui avait été accusé d'avoir essayé de débaucher les sœurs du couvent des Ursulines et qui a été brûlé vif à Loudun, dans cette même ville, 300 ans avant l'affaire Bénard. Autre responsabilité importante, c'est la police, en tout cas deux policiers, hein, le commissaire Noquet et l'inspecteur Normand, qui prennent au sérieux justement les ragots de Madame Pintou et de Monsieur Massip.
Oui, ces deux jeunes personnes souhaitent peut-être faire carrière. Ils se disent qu'ils détiennent l'affaire du siècle. Et ils essaient à tout prix de faire passer aux aveux Louise Pintou et plus tard Marie Bénard. Et de manière pas très légale non plus. Hein. Il y aura l'affaire des moutons aussi. Mais c'est vrai qu'ils essaient à tout prix d'obtenir des aveux. Comme quoi, elle a une liaison avec cet homme et qu'elle a voulu empoisonner son mari pour pouvoir vivre et récupérer aussi des héritages.
Alors, le problème est qu'il va faire de Marie Bénard non seulement la présumée meurtrière de son mari, mais même une meurtrière en série, c'est qu'aussitôt, ça va beaucoup plus loin, on commence à remonter dans le temps, on se rend compte qu'il y a eu énormément de morts dans les années qui ont précédé la mort de Léon Bénard, toute une famille, et là on se dit, mais tiens, peut-être que Marie Bénard est responsable de ces morts parce qu'elle a hérité de beaucoup de choses, et on va les exhumer des cimetières de la région pour vérifier ce qu'il y a dans les cadavres, c'est ça Sophie Darblade.
Oui, et ça c'est aussi parti d'une liste dressée par Auguste Massip, tout simplement, qui est allé répertorier dans les cimetières tous les morts, en fait, et des morts qui sont souvent de morts naturelles, de vieillesse, hein, mais on imagine qu'elle n'est pas à son premier fait d'empoisonnement. Donc on exhume ces cadavres, c'est vrai que c'est un côté assez folklorique, parce qu'il y a une quantité énorme de bocaux, et qui seront d'ailleurs après au centre de l'affaire, puisque tout n'a pas été fait vraiment en règle.
Et au centre du premier procès, puisqu'on va trouver de l'arsenic dans tous les corps, et Marie Bénard va être inculpée, arrêtée, et après 2 ans d'enquête, traduite devant la cour d'assises de Poitiers, le 20 février 1952.
Marie Bénard, le premier de la longue liste des morts qui nous intéresse, c'est Antigny Auguste, votre premier mari, qui meurt en 1927. En ce qui le concerne, heureusement pour vous, il y a prescription.
Alors pourquoi on en parle?
Un an après, vous épousez Léon Bénard. En 1938, sa grand-tante meurt. Puis ce sont vos amis, les Rivet, qui meurent aussi. Ensuite, il y a votre père et la grand-mère de Léon. Les parents de Léon, cela fait 7. Puis c'est au tour de Lucie Bénard, la sœur de Léon.
Elle l'a retrouvée pendue chez elle. C'est quand même pas moi qui l'ai accrochée à cette corde.
Peut-être, mais toute pendue qu'elle était, elle avait plus de 60 mg d'arsenic dans les viscères. Un des taux les plus élevés parmi vos chers défunts, madame Bénard.
Puis viennent les sœurs Lalleron, puis votre époux Léon Bénard et enfin votre mère, 2 ans après. Ce qui nous amène à 12.
12 morts, peut-être. Pas 12 empoisonnés.
Madame Bénard, on a retrouvé du poison dans les 12 corps. Et à chaque goutte d'arsenic qui aurait été versée, vous avez gagné un champ hérité d'une maison, d'un terrain.
Est-ce que tous les gens qui héritent sont des criminels ?
Alors, on a retrouvé effectivement du poison dans les 12 corps. Je rappelle qu'elle est inculpée, je crois, pour 11, parce que le mari, on l'a entendu, il y avait prescription pour le mari. Donc, c'est 11 victimes présumées de Marie Bénard. Au début, tout le monde est convaincu de sa culpabilité. L'opinion publique, la presse, la justice, l'opinion publique qui réclame sa mort. C'est une femme seule en 1952, au moment de son premier procès, Sophie Darblade.
Oui, une femme seule et qui se tient droite, hein, qui a quand même une force, je pense, en elle, qui fait qu'elle elle maintiendra jusqu'au bout le fait qu'elle était, bien sûr, se déclarant innocente. Mais elle a quand même... elle travaille en prison. Hein, elle essaie de rester digne et de ne pas surtout tenir compte, bien sûr, de ces rumeurs. Elle n'a pas... D'ailleurs, les psychiatres diront qu'elle a un côté insensible, hein, mais je pense que ça l'a un peu sauvée aussi. Ça l'a préservée, parce qu'effectivement, ça aurait été quelqu'un de très, très sensible. Je ne sais pas si, à force, cette rumeur ne l'aurait pas détruite.
Alors, on l'a entendu, on la soupçonne, on a trouvé l'arme du crime, enfin, on l'a soi-disant trouvé, l'arsenic, on trouve cet arsenic dans tous les corps. On a trouvé aussi les mobiles. Hein. Les mobiles, c'était l'héritage, hein. Les héritages qu'elle aurait obtenus de tous ceux qu'elle aurait fait passer à de patresse.
Alors, ça, c'est une réalité. Elle a toujours suscité des jalousies de ce côté-là, puisqu'effectivement, ils avaient pas mal de terres, ils avaient des fermes, ils avaient un atelier de cordes qui fonctionnait très bien et aussi des chevaux. Cette richesse-là a fait des jaloux, mais c'était une richesse qui aussi provenait de leur travail, des héritages, mais de leur travail aussi.
Alors bref, le dossier est accablant, sauf que très vite, parce qu'elle a quand même 2 personnes qui la défendent bien, ce sont ses avocats, on va s'apercevoir que ce dossier, il repose sur des choses qui sont parfaitement fantaisistes et tout de suite, les avocats vont mettre en évidence les défaillances des expertises. Hein, ça, le premier procès, c'est un bouleversement, un coup de théâtre, brusquement, on se rend compte que d'abord on a mélangé les cadavres au moment des exhumations, et puis que le soi-disant expert qui avait été consulté, le docteur Bérou, n'était pas aussi sérieux qu'on le dit.
Et puis à l'époque, c'est vrai que Maître Ayot s'est direct a su qu'il fallait s'attaquer aux experts. C'est l'avocat de Marie Bénard avec Henri Ducluseau. Mais Maître Ayot, c'est lui qui a orchestré toute sa défense sur les 3 procès. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'expert avait une toute puissance. On parlait d'ailleurs, pour ce docteur Bérou, on parlait de l'école de Marseille. Et une fois que l'expert avait parlé, on ne pouvait plus aller contre ce qu'il avait dit. Mais là, il arrive à le mettre, donc, à le ridiculiser même, je dirais, puisque cet homme prétendait reconnaître à l'œil nu des anneaux d'arsenic qu'il ne confondait pas avec les anneaux d'antimoine. Et à ce moment-là, Maître Ayot lui présente 6 tubes et lui demande dans lesquels reconnaît-il les anneaux d'arsenic. Et il en désigne un. Malheureusement, il n'y avait aucun anneau dans.
Oui, l'avocat dit effectivement, dans aucun des tubes, il y a de l'arsenic, alors que l'autre dit, mais bravo, ils sont là-dedans. Alors, c'est confondant pour ce pauvre expert qui devient la risée de tout le monde.
Mais je crois que c'est à partir de là que le doute s'installe et c'est là où les avocats commencent à gagner le procès et peut-être aussi à faire ce retournement de situation du public, puisqu'il y a doute.
Le dossier, effectivement, de l'accusation s'effondre. Tout est à refaire. On remet le procès à plus tard. Mais Marie Bénard reste en prison. On procède à de nouvelles exhumations, de nouvelles expertises, jusqu'au deuxième procès qui a lieu à Bordeaux le 15 mars 1954, devant des centaines de journalistes, dont le plus célèbre chroniqueur judiciaire de l'époque, une archivina du 15 mars 1954.
Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. L'audience est ouverte, déclare le président Porquerie de Boisserin. Beaucoup de monde dans la salle, mais pas de confusion. Et on lit l'acte d'accusation. À la lecture d'un passage qui nous montre une description de la maladie et de la mort de la mère de Marie Bénard, celle-ci éclate en sanglots. L'accusé, sous sa mantille, roule de nouveau et de lourds sanglots. Le greffier poursuit sa lecture. Le visage derrière les lunettes semble amaigri, parcheminé. Les 56 mois de prison l'ont marqué. Elle pétrit nerveusement un mouchoir de ses mains longues, fines. On la sent volontaire, décidée, sans doute passionnée, en tout cas intelligente. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a certainement dû être la dame bien de Loudun, le président. Vos camarades de jeunesse vous disent comédienne et flatteuse, Marie Bénard, petite voix à peine audible. C'est faux, monsieur le président, le président. Vous êtes aussi réputé avare et cruel avec les animaux, Marie Bénard. C'est inexact, monsieur le président. Les animaux, je les aime beaucoup. On passe ensuite aux déclarations de certains témoins, des voisins, des amis, qui ont eu, semble-t-il, la langue bien pendue à partir du moment où Marie Bénard s'est trouvée incarcérée.
Extraordinaire, hein, comme d'habitude, les commentaires de Frédéric Potcher et Sophie Darblade.
Oui, il a suivi l'affaire, je vais dire, au deuxième procès, parce que le premier procès, vous disiez que justement tout le monde était convaincu de la culpabilité de Marie Bénard, et lui-même n'a pas voulu assister au premier procès parce qu'il était convaincu qu'elle était coupable. Oui. Donc tout change, j'ai su ça après avoir malheureusement écrit le livre, je n'ai pas pu l'inscrire au moment de la rédaction de l'ouvrage, mais c'est vrai qu'il était persuadé, donc il a dit non, je n'y vais pas. Alors qu'au deuxième procès, il suit l'affaire donc, d'ailleurs jusqu'au bout et là c'est un chroniqueur qui sera, dont les magistrats et les avocats vont attendre même ces chroniques à chaque jour parce que c'était un procès qui a été très suivi. Alors on parle du deuxième procès mais il faut noter qu'il a été délocalisé, donc on était sur Poitiers au premier procès, là on est à Bordeaux. Et pourquoi? Parce que justement il y avait une suspicion de danger public dans la mesure où les avocats étaient reçus à la fin du procès par des jets de pierre, qu'ils étaient injuriés. Donc il y avait toute cette, à nouveau, ce public
qui réclame la mort de Marie Bénard.
Voilà.
Oui.
Donc il fallait dépassionner le débat. Donc c'est pour ça qu'on le place à Bordeaux.
D'autant que l'affaire a pris une ampleur nationale. Elle a largement dépassé le cadre de Loudun. C'est même international, je crois qu'on en parlait dans toute l'Europe.
Oui. Même dans les journaux espagnols. C'est vrai qu'on est à une époque aussi où la presse judiciaire, les chroniqueurs ont une place réservée dans le prétoire. Donc c'était le feuilleton de l'époque, en quelque sorte.
Et avec des rebondissements, parce que dans ce deuxième procès, là, évidemment, l'opinion publique demande la tête de Marie Bénard, mais alors, ça tourne encore plus mal pour l'accusation. D'abord, il y a Louise Pinton, dont on attend la déposition, puis Louise Pinton qui commence à avoir des doutes, hein, par exemple.
Oui, elle les avait d'ailleurs eues au premier...
Celle par qui le scandale était arrivé, si je puis dire.
Oui, il y a un avocat qui lui dit, bon, alors maintenant, êtes-vous aussi certaine que Marie Bénard ait empoisonné son mari? Et là, elle dit, bien sûr que non, parce qu'elle est comme tout le monde, les experts ont été ridiculisés, les savants s'opposent aux experts, et justement, Maître Ayot a fait un excellent travail en amont dans son cabinet, il s'est même transformé en chimiste lui-même, a essayé de faire des expériences pour prouver en fait que l'arsenic, on en trouve partout, on en trouve dans les tombeaux, on en trouve dans les eaux de ruissellement aussi, puisqu'on a vu la position aussi du cimetière, il y a une déclivité des eaux de ruissellement, et il y a tout simplement un jardinier qui sulfate ces pommes de terre avec un produit arsénié.
Oui, ça c'est plein de rebondissements. Il y a aussi Auguste Massip qui se ridiculise un petit peu. Oui. Finalement, on décide à nouveau pour de nouvelles expertises et consultations de savants de reporter le procès. Cette fois-ci, on va attendre six ans. Avant le suivant.
Oui.
Tandis que Marie Bénard, elle est mise en liberté sous caution. Et là, chose amusante d'ailleurs, tout le monde, là on voit bien que l'opinion bascule un peu déjà, se propose parce qu'elle n'a pas d'argent en fait. Marie Bénard, on la soupçonne d'avoir fait fortune avec les héritages, mais elle n'a pas assez d'argent pour la caution.
Non, parce que ses biens ont été placés sous séquestre, pas forcément bien gérés. Et la liberté provisoire, donc, c'est à condition qu'elle paie une somme très élevée qui sera réduite et que d'ailleurs un chanteur de l'époque, Charles Trenet, se propose de payer, de régler.
Oui, hein, c'est assez amusant,
parce
effectivement.
Parce qu'en fait, Charles Trenet et l'avocat de Marie Bénard est aussi celui de Charles Trenet, ils ont le même avocat. Et comme, en fait, il a expliqué aux journalistes qu'ayant été lui-même lors d'une tournée incarcéré en Amérique du Sud, il souhaite venir en aide, il comprend la souffrance de cette femme. Mais bon, les avocats refusent.
En tout cas, elle sort de prison après 5 ans, où elle a passé quand même 5 ans, hein, entre 1949 et 1954. Et puis, elle revient à Loudun. Comment est-ce qu'elle est accueillie à Loudun, Sophie Darblade? Au début, elle était plutôt mal vue. Et c'est Loudun qui est un peu responsable de son arrestation.
Et on en est encore à ce que la rumeur circule et l'attaque de Franc. Et elle revient la tête haute. Elle retrouve sa maison dans l'état dans lequel elle l'avait laissée lors de son arrestation. Et avec l'aide d'une amie, elle se remet à tout en ordre et la tête haute, elle essaie donc de faire face encore aux rumeurs. Hein. C'est loin d'être terminé. Et alors, ce qu'elle souhaite faire et qui peut-être va l'aider aussi, c'est écrire ses mémoires. Elle commence l'écriture de ses mémoires.
Elle répond même aux questions des journalistes de la presse écrite et même, je crois que c'est assez exceptionnel, un journaliste de la télévision. C'était tout simplement François Chalet qui l'interrogeait pour l'émission 5 colonne à la une, écoutez la voix de Marie Bénard rappelant son affaire le 6 mars 1959.
Nous appartenons à un pays où trop souvent la presse se donne le droit de juger avant les juges. Pour une fois, nous voudrions vous donner la parole. Est-ce que vous acceptez de nous parler?
Très volontiers, monsieur.
Est-ce que vous attendiez à ce que des accusations de cet ordre soient portées contre vous?
Pas du tout, monsieur.
Vos rapports avec la population de Loudun?
Pas du tout, monsieur.
Ne vous avez pas pensé que telle chose pouvait être possible?
Impossible.
Oui.
Impossible, monsieur.
Donc votre réaction a été d'abord l'étonnement.
Très étonné, bouleversé de cette chose-là. Comme je vous ai déjà dit, je ne comprenais pas.
Oui. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'attends. J'attends toujours. Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocent. Oui, je suis innocent.
Extraordinaire cette voix de Marie Bénard. Vous m'avez dit avant cette émission, Sophie Darblade, que vous n'aviez pas voulu vous parler de cette émission de 5 colonnes à la une, que vous n'aviez pas voulu l'écouter avant d'avoir écrit votre livre.
Effectivement, je suis allée écouter cette archive vraiment à la toute fin de la rédaction du livre parce que j'avais entendu dire qu'elle avait une... C'est cette voix qui, quelque part, j'avais l'impression que j'aurais pu être influencée par cette voix qui est complètement, il y a un paradoxe, elle est toute fluette, on dirait une voix de petite fille, alors que c'est une femme imposante et massive qui a une force qui ne correspond pas en fait à sa voix.
Mais parce qu'on peut, est-ce que ça vous donne une idée? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, à l'entendre, je vais vous faire une petite confidence, dans le bureau, quand on a écouté cette voix, ben, les avis étaient partagés. Il y avait certains qui disaient, mais à l'entendre, je suis sûr qu'elle était coupable. Ben non, disaient d'autres, elle est innocente. C'est vrai qu'on peut se poser la question. En tout cas, c'est un document tout à fait exceptionnel. Alors, elle a répété tout le temps, depuis le début, qu'elle était innocente. Elle va le faire aussi en 1961, lors de l'ouverture de son troisième procès à la cour d'assises de Bordeaux, hein, c'était le 20 novembre 1961, et lorsqu'elle dit « si je suis ici », je trouve ça assez extraordinaire, « si je suis devant cette cour, c'est que je suis innocente », on entend ça rarement.
Oui, elle a toutes les années de prison aussi quand même qu'elle a endurées, dans des conditions quand même assez difficiles. C'est une femme qui, en 61, a quand même 63 ans, qui a passé donc pas mal d'années en prison, et elle croit toujours, elle veut persuader tout le monde de son innocence. Sens.
Alors là, elle est déjà parvenue, si je puis dire. On voit bien, on lui parle plus de la même manière, on ne la regarde plus de la même manière, on est plutôt indulgent. Alors, à ce troisième procès, dernier procès, les savants donnent définitivement tort aux experts. Il y en a un qui a été cité, mais je crois qu'il n'a pas pu venir, qui est important, c'était l'inventeur de l'énergie nucléaire en France, c'était Frédéric Joliot-Curie.
Qui est décédé avant.
Ouais. Et puis alors, il y a les avocats, l'avocat de la partie civile, qui n'est pas très très sévère, hein. Il défend les familles des victimes, ou des soi-disant victimes de Marie Bénard, et il dit « Je souhaite que la justice ne soit pas exclusivement cruelle en raison de la durée de la procédure, de l'inquiétude et de la torture morale qui furent les vôtres », dit-il en parlant de Marie Bénard. Donc c'est marrant, si on peut dire, l'avocat des victimes qui dit « il ne faut pas qu'on soit trop sévère ».
Oui, mais en même temps, c'est là aussi, on retombe sur cette expertise, sur ces experts qui descendent un petit peu de leur piédestal. Hein. Et d'ailleurs, suite à ça, Maître Ayot aussi a essayé, lors de la refonte du code de procédure pénale, d'instaurer une expertise contradictoire au moment de l'instruction, ce qui a été refusé. Ce qui est admis, c'est qu'on puisse faire appel de ce refus de la contre-expertise, parce que sinon, ça laisse la place, effectivement, pendant l'audience, à ces débats qui n'en finissaient plus. Mais parfois aussi, on avait du mal à suivre, parce que c'était un tableau noir, et c'était des chiffres qui succédaient aux chiffres. C'était vraiment presque un amphi. On serait cru dans un amphi de physique ou chimie.
Et puis, tout le monde avait envie que cette histoire se termine. Et le verdict, finalement, ne surprend personne. Frédéric Potcher, le 12 décembre 1961.
Marie Bénard est acquittée. Avant d'entrer dans leur salle des délibérations, après une plaidoirie de Maître Gautra, le président Lucie Saint-Saëns s'était tourné vers l'accusé en lui posant la question rituelle. « Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Marie Bénard répondit « Je vous répète, Monsieur le Président, ce que j'ai dit au commencement de ces débats. Si je suis ici, c'est parce que je suis innocente. Autrement, les remords m'auraient tué. Pendant tous ces débats, j'ai été soutenue par mes défunts et aussi par ma chère maman. Eux et notre Seigneur savent que je n'ai rien fait de mal. J'ai confiance en eux et j'ai confiance en la justice de Dieu. » Après le prononcé du verdict d'acquittement, la foule s'écoula sans bruit. Marie Bénard embrassa ses avocats qui étaient bouleversés. Et enfin, la foule s'est lentement dispersée aux abords du palais de justice de Bordeaux.
Et c'était la fin de cette affaire. Marie Bénard mourra 19 ans plus tard. C'est encore Frédéric Potcher dans cette affaire. Alors lui, il est vraiment convaincu qu'effectivement, il n'y avait pas de soupçon.
Oui, mais quand même, il faut dire qu'elle a été acquittée et
au
qu'elle
bénéfice
n'a pas,
du doute.
Au bénéfice du doute. Oui. Et justement, Frédéric Potcher notait que, avait juste raison, la justice est tout sauf une science. Elle peut se tromper et être trompée. Donc ça, il a bien relevé. Et moi, lorsque j'avais rencontré Maître Ayot, donc au moment de la rédaction du livre, il m'avait quand même dit à la fin qu'elle était partie avec son secret.
Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'elle a beau avoir été acquittée, on ne peut pas commenter une décision de justice. Mais c'est vrai qu'on a continué à se demander est-ce que, oui ou non, elle a tué tous ces gens.
Oui, et je pense que même encore, vous le disiez tout à l'heure, il y avait des réactions. On disait, ah ben non, je suis persuadée qu'elle est coupable encore. Il y a des gens, je crois que même à la suite du téléfilm, ça va alimenter encore des discussions, alors qu'on pourrait penser qu'avec toute cette magistrale défense quand même qu'elle a eue, elle a eu quatre avocats pour elle, on pourrait penser qu'on la considérait comme n'ayant pas assassiner son mari.
Merci Sophie Darblad. Pour en savoir plus, je recommande vivement la lecture de votre livre « L'affaire Bénard » publié aux éditions De Vecchi dans la collection « Grand procès ». Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Marie Bénard, l'empoisonneuse » édité en DVD par TF1 Vidéo et un extrait de l'émission « Le vif du sujet » d'Alexandre Hérault diffusé sur France Culture le 2 septembre 2003. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Catherine Louis et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac.